Bonsoir. Deux thèmes sont au menu de la tribune de la presse de ce jour. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies appellent la classe politique congolaise à engager un dialogue pour dégager un consensus autour de la machine à voter. C'est l'une des principales recommandations formulées au cours de leur visite effectuée en RDC du 5 au 7 octobre dernier. Ils ont aussi recommandé le respect des libertés fondamentales pour l'expression des différentes sensibilités. Ensuite, nous parlerons de cette collision samedi dernier d'un camion-citerne avec un autre véhicule à Mbouba au Congo central. Le bilan officiel des victimes de cet accident fait état de plus de 50 morts, indique le ministère de la Santé dans un communiqué rendu public lundi dernier. Le même document renseigne que 12 personnes sur les 84 blessés admis dans les hôpitaux de Kinshasa sont décédées des suites de leurs blessures. Pour traiter ces sujets, je suis avec Alain Botoko, journaliste, photographe indépendant. Bonsoir Alain.
Bonsoir Alain, bonsoir à nos amis Molicho et Francis qui est à Mwanda.
Voilà, Claude Molicho, Kayembe, bonsoir.
Bonsoir Alain, vraiment plaisir pour moi de vous retrouver dans ce studio de Radio Kongo.
Vous êtes journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC et aussi coordonnateur national des communicologues du 3e millénaire. Lui, il est à Mwanda, il s'appelle Francis Kidiba. Bonsoir cher confrère.
Bonsoir Alain Roum, je profite également pour saluer les confrères qui sont avec vous là-bas au studio. Alain Botoko, Claude Molicho, un grand plaisir de les retrouver, de les écouter encore au téléphone après un bon moment.
Merci, vous êtes rédacteur en chef de la radio communautaire de Mwanda dans la province du Congo central. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission. Les journaux kinois ont différemment commenté l'actualité de cette semaine, suivant cette revue de presse que nous présente Donna Madimba.
Des sujets aussi nombreux que divers ont dominé la presse de la RDC cette semaine qui finit. Lundi, les médias du pays se sont focalisés sur le mémorandum adressé par l'opposition aux membres du Conseil de sécurité lors de leur séjour en RDC. Le potentiel mettait en avant la phrase « Ne cédez pas au chantage de Kabila dans les rangs de l'opposition », écrivait le journal. On se disait convaincu que le président Joseph Kabila joue avec le temps, cherchant à tirer en longueur les prochaines échéances électorales qui ouvre la voie à l'alternance démocratique. Le mémo de l'opposition remis à la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies en visite à Kinshasa, Freddy Matungulu, Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, Adolphe Mozito et Jean-Pierre Bemba, Forum des As publié à Manchette, je cite, « Pour un processus électoral sécurisé et crédible, l'opposition demande la reconduction des forces de la MONUSCO. Selon le quotidien, les 7 principaux leaders de l'opposition invitent l'organe de prise de décision de l'ONU à exécuter ses résolutions 2348 et 2409. Sur ce même sujet, Depeche.cd écrivait, le Conseil de sécurité a une fois de plus souligné la disponibilité de l'aide de la MONUSCO. Le Conseil de sécurité de l'ONU a réitéré la disponibilité du support de la MONUSCO pour la réussite du processus électoral, rapportait le média. Mardi, les journaux de Kinshasa rapportaient les mécontentements de haut rang. Le candidat Chekomba menaçait de se retirer de la présidentielle selon la prospérité. Il évoquait 6 raisons. Le retrait de la machine à voter, le nettoyage complet du fichier électoral, la restructuration du bureau actuel de la Commission électorale nationale indépendante, le traitement protocolaire et la sécurisation égale et immédiate de tous les candidats à l'élection présidentielle, la libération sans délai des prisonniers politiques et d'opinion, un engagement tripartite gouvernement Sini MONUSCO pour le retour de tous les opposants congolais en exil avec facilitation consulaire d'obtention des documents de voyage élargis à toutes leurs familles respectives. Mercredi, c'est entre autres la démission de Nikki Haley qui intéressait les journaux de RDC. À ce sujet, écrivait Forum des As, la démission hier de Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, est tombée comme un couperet. Je ne serai pas candidat en 2020. Je peux vous promettre que je ferai campagne pour la réélection du président Trump, rapportait le site 7sur7.cd, citant l'ambassadrice américaine à l'ONU. Et enfin, le sujet sur la réunion de mercredi entre les candidats président de la République et la CENI était rapporté dans les médias de Kinshasa. À la grande surprise de Corneille Nanga, Scrut Forum des As, certains candidats ont, dès l'entame de la réunion, posé des questions n'ayant aucun lien direct avec l'objet du jour. Les uns sont revenus sur la légalité de la machine à voter, d'autres sur l'éternelle question des électeurs enrôlés sans empreinte digitale, d'autres encore sur des aspects de financement du processus électoral en cours. Bref, fait savoir le tabloïd, un débat orienté dans tous les sens et totalement éloigné de son objectif final. 7 sur 7.cd écrivait « La réunion CENI candidat président se termine mal à cause de la machine à voter. Ceux qui ne veulent pas qu'on ait des discussions techniques peuvent partir », propos attribués à Corneille Nanga. Alors que actualité.cd écrivait « Bassengezi calme le jeu après la réunion avec les candidats ».
En dehors des sujets que nous traitons ce soir, chers confrères, vous avez la possibilité de commenter au choix un sujet qui a retenu votre attention. Commençons par vous, Claude Molichaud.
C'est au niveau de notre corporation, parce que nous parlons beaucoup plus des acteurs politiques, pas de nous-mêmes, nos journalistes, parce que vous savez que il y a une confusion entretenue par deux présidents de l'UNPC, Kasonga Chilunde, qui est président national de l'UNPC, et Jean-Marie Kassama, qui est président provincial ville de Kinshasa. Chilunde qui demande à ce que les journalistes candidats à la prochaine ou aux prochaines élections doivent rester jusqu'à leur élection, et c'est pas le cas pour Jean-Marie Kassamba. Donc ils nous mettent dans la confusion. Alors moi, en tant que coordonnateur national des communicologues du troisième millénaire, j'insiste, je me dis, nous devons arriver à créer notre ordre national des journalistes congolais, comme c'est le cas avec les avocats, les magistrats, les pharmaciens, ainsi de suite, parce que qui dit ordre dit formation, dit un diplôme reconnu, je dis bien reconnu, dans une institution universitaire du pays ou à l'étranger. Mais avant de prester, il faudrait que ces journalistes soient reconnus avec son diplôme et qu'ils soient enregistrés dans l'ordre pour prester. Sinon, tout le monde peut se lever un matin et devenir journaliste, et ça va créer la confusion. C'est ce que nous vivons maintenant.
Alain Botoko.
Oui, moi je vais parler de la dégradation de l'environnement d'une manière générale au Congo, mais surtout dans la ville de Kinshasa, où nous habitons tous, qui est la capitale de notre pays. Vous savez, chers frères, que nous sommes un pays hautement stratégique dans l'environnement, et la gestion de celui-ci pose énormément de problèmes. Dans tout le pays, nos forêts, qui sont effectivement notre force, sont en train d'être décimées, détruites, mais aussi dans le ville où nous habitons, où il n'y a plus de routes, il n'y a plus d'infrastructures de base pour pouvoir donner la vie aux êtres humains que nous sommes, pour vivre une vie qu'il faut. Mais un autre élément, c'est ces constructions anarchiques qui sont éparpillées à travers la ville. Vous savez, par exemple, ici dans la ville de Kinshasa, il y a des morgues qui sont construites dans des lieux où ils ne pouvaient pas être emplacés. Vous imaginez? Dans le milieu comme les écoles, à l'école de Chaoumba, où on est en train de construire une morgue là-bas par un Libanais, mais aussi à côté de l'église Saint-Gabriel à Yolo. Comment on peut concilier les habitations et de lier des pollutions, de lier qui causent énormément de problèmes?
Et donc tout ça est à suivre?
C'est à suivre, effectivement, parce qu'en fait, l'émission est limitée. Qu'est-ce que vous voulez?
Merci. Francis Kidiba, vous êtes à Mwanda, dans la province du Congo central. Qu'est-ce qui fait l'actualité là-bas?
Merci Alain Rungo. Voilà, donc à Mwanda, où nous vivons, pratiquement il y a plus de 5 ans aujourd'hui, j'avais dit que la sécurité va bien, il y a le calme dans la cité côtière, mais ce calme est l'œuvre aussi de certaines autorités, entre autres les autorités administratives, politico-administratives du milieu, qui militent nuit et jour pour qu'il y ait ce calme. Je citerai par exemple l'opération d'identification des motocyclistes initiée par l'administrateur des territoires. Plusieurs conducteurs de ces engins de transport portent désormais des numéros, et des cartes identifiables. Et cette opération a pratiquement mis de l'eau dans le vin, concernant les tiraillements qui prenaient un peu une mauvaise allure entre conducteurs de moto-taxi et la police des circulations routières. Donc à ce jour, ce refrain-là de la tracasserie a pratiquement disparu dans les bouches des motocyclistes. Et aussi, il y a lieu de dire que la dite opération d'identification des motocyclistes contribue beaucoup aussi à la régression de l'insécurité dans la ville, dans la cité, puisqu'il semblerait que ces engins sont aussi parfois utilisés à des opérations de bandits, d'opérations de nuit. Maintenant que la circulation a été régulée, au plus tard 23 heures, dépassé cette heure, la police vous arrête donc.
Francis, ce point-là. Oui. Et donc, brièvement, si on doit comprendre, tout se passe plus ou moins bien dans la cité de Mwanda.
Exactement. Exactement.
Merci beaucoup. Cela nous permet de passer à notre premier thème de ce soir. Le Conseil de sécurité a recommandé la tenue d'un dialogue pour dégager un consensus autour des points qui divisent les acteurs politiques, entre autres la machine à voter, le fichier électoral, la sécurité et autres. Les membres du Conseil de sécurité l'ont dit dimanche dernier au cours de leur conférence de presse, clôturant leur visite de travail en RDC. Comment la requête onusienne est-elle accueillie au niveau des acteurs politiques congolais notamment? Élément de réponse avec vous, Mimi Ngumba Mulongo.
À la suite de différents entretiens, le Conseil de sécurité des Nations Unies a noté que toutes les parties prenantes au processus électoral sont déterminées à aller aux élections pour une première transition pacifique du pouvoir en RDC. Il s'agit là d'une opportunité historique à saisir, selon l'ambassadeur de France en RDC.
Pour saisir cette opportunité historique qui se présente à la République démocratique du Congo, il est crucial que les élections du 23 décembre soient crédibles, transparentes et qu'elles se tiennent dans un climat apaisé.
Quant à l'utilisation de la machine à voter qui divise les acteurs politiques, le Conseil de sécurité a recommandé un dialogue. François Delattre.
Nous avons rappelé pour ce qui nous concerne, la position du Conseil de sécurité est appelée par le dialogue à trouver les voies d'un consensus le plus large possible, permettant de créer les conditions d'élections réellement crédibles et transparentes se déroulant dans un climat apaisé.
Au stade actuel, le Conseil de sécurité a réitéré son engagement à appuyer le processus électoral.
Et là aussi, nous avons tous, collectivement, nous, les membres du Conseil de sécurité, réitérer la disponibilité de la MONUSCO à répondre à toute demande de soutien logistique à l'organisation des élections.
Enfin, le Conseil a recommandé le respect des libertés fondamentales pour l'expression de différentes sensibilités politiques.
Merci Mimi Ngumba Mulongo, Claude Molicho Kayembe, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC et également coordonnateur national des communicologues du 3e millénaire. Pour vous, d'abord, comment vous avez accueilli cette visite de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU en RDC?
En tout cas, très 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 positif. On a salué l'arrivée de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies ici au Congo parce qu'il y a eu des contre-vérités qui ont été avancées par certains politiciens, surtout de l'opposition au niveau de New York, au niveau des États-Unis d'Amérique, en marge de la 73e Assemblée générale des Nations Unies. Même l'année dernière, il y a toujours ce qu'ils appelaient eux-mêmes action de lobbying au niveau du Conseil de sécurité, même s'ils ont traîné dans les couloirs. Ils ont dit des choses là-bas et il était normal que le Conseil de sécurité dépêche une délégation ici à Kinshasa pour vérifier réellement qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe et essayer un peu d'écouter les uns et les autres afin de donner un point de vue sur cette question. Voilà, on a salué cette visite. Maintenant, qu'est-ce qui est de positif, Alain Rung? C'est ce que nous disons toujours, l'OIF est arrivé ici et cette organisation est arrivée à la même conclusion. Il faut vraiment expérimenter cette machine à voter pour que qu'on puisse être d'accord, créer un climat de confiance. Donc, on n'a pas rejeté la machine à voter. Et on n'a pas rejeté le processus. On n'a pas discrédité le processus. Les experts britanniques sont arrivés ici, ils sont arrivés à la même conclusion. C'est-à-dire que le processus avance normalement, mais il y a des retouches à faire. Il faut créer un dialogue. La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est arrivée ici, c'est la même conclusion. C'est pour vous dire que le bureau de la CENI est en train de bien piloter le processus. Mais il y a des gens qui ne veulent pas aller aux élections parce qu'ils ne sont pas prêts. S'il faut faire un petit tour dans les états-majors des partis politiques ici à Kinshasa comme à l'intérieur du pays, vous constaterez avec moi, Alain Rung, qu'il n'y a pas un climat de préparation des élections. Il n'y a pas de sensibilisation, il n'y a pas de quoi.
Alors est-ce que ce consensus est possible, Claude Molichon?
C'est possible si
on
arrive à se parler. Et les gens ne veulent pas qu'on arrive à se parler. On vous convie. Vous savez qu'avant même l'arrivée de toutes ces trois délégations, la CENI a instauré depuis toujours un mécanisme de concertation. De temps en temps, ils viennent, ils écoutent ce qui se passe, ils posent des questions, ils ont des réponses, mais en sortant, ils font autre chose. Ils appellent les gens à la manifestation des rues, tout. Alors, nous disons, est-ce que veulent-ils les élections, ces gens de l'opposition? Non! Ils ne sont pas préparés pour les élections. Voyez ce qui se passe pour le moment. On vous appelle, vous venez, et après, la fois dernière, l'IDPS a délégué des gens pour essayer un peu de vérifier le processus au niveau de la CENI, dans le cadre mécanique de consultation. Après, ils sont sortis avec 45 questions. Tout le monde est venu. C'est la même démarche qui est entreprise par d'autres organismes, notamment les Nations Unies, les Britanniques, l'OIF, etc. Et aujourd'hui,
nous constatons que certains candidats viennent par procuration, ou soit ils ont payé les cautions, la caution de 5000 euros par procuration, ou sont devenus des commissionnaires. Parce que quand on est candidat, on n'a pas les immunités parlementaires, ou je ne sais pas moi. On est candidat, on est citoyen congolais. Parce qu'on ne doit pas aller au-delà des lois.
Merci.
Il faut respecter les lois. Il y a une loi électorale ici, il y a la constitution.
Merci,
nous, tout le monde doit respecter les lois. On ne doit pas, parce qu'on est candidat, on doit dire non, je dois brûler le pays, je viendrai les jours d'élection avec des baïonnettes ou des fusils ou des papiers duplicataires.
Merci, pour Claude Molichaud. Pour
ça, parce que voter alors que tout avance normalement.
Vous êtes vraiment très déchaîné et très énervé. Alain Botoko, vous êtes journaliste, photographe indépendant. Vous avez suivi Claude Molichaud qui pense, qui paraphrase un peu le directeur de cabinet du président de la République, le professeur Némi Mouilagna, qui a déclaré à travers les médias qui voyait, que le FCC voyait qu'il y avait visiblement une équipe qui n'avait pas envie de jouer, en faisant allusion aux opposants qui ne veulent pas aller aux élections. Quel est votre avis?
Oui, je vais placer un peu le contexte ou le temps de lieu où nous sommes. Nous sommes dans un pays où toutes les institutions dirigent par défi à un moment, parce que ils ne sont plus dans leur mandat. Il y a 2 ans passés, c'est l'accord de Saint-Sylvestre qui leur donnait encore un peu du temps, mais cet accord-là ne vaut plus rien aujourd'hui. Et le Conseil de sécurité, c'est l'organe spécial du monde qui contrôle la sécurité du monde, et vous savez bien qu'ici au pays, nous sommes un pays trop stratégique. C'est tout un petit continent. Nous avons 9 voisins qui nous entourent. Et si ça ne marche pas ici en RDC, donc c'est tous nos voisins qui seront en problème, parce que nous sommes plus de 100 millions de personnes et ils ont 4 millions, 2 millions, 7 millions, 20 millions. Allez-y comprendre. Le Conseil de sécurité ne peut que se préoccuper de ce qui se passe au Congo. Il y a 2 ans, ils étaient ici et ils sont venus. Ils ont parlé presque le même langage. À ce moment-là, le gouvernement était encore légitime. Ils leur ont dit clairement que il faut dialoguer, et en dialoguant, vous aurez une solution pour pouvoir mener votre pays dans la destinée la meilleure. Et effectivement, les hommes politiques se sont réunis. Ils ont eu un accord, et cet accord-là faisait que le pays soit géré par consensus de la fin de mandat de 2016 jusqu'à à la date, c'était pour une année. Et cet accord n'a pas été observé. Les grandes lignes n'ont pas été observées. Et le Conseil de sécurité revenit pour redire aux politiciens congolais que vous avez votre pays, vous devez le gérer comme il s'y doit. Regardez ce qui se passe dans notre pays, où il y a des officiels qui ne peuvent pas voyager dans d'autres pays, où il y a des candidats présidents qui ne peuvent pas aller ou utiliser leur argent qu'ils ont déposé
Alain Botoko,
dans des banques.
Vous avez planté le décor, vous avez rappelé le contexte, mais est-ce que le consensus auquel appelle le Conseil de sécurité en RDC autour de la machine à voter, du fichier électoral et d'autres questions est possible?
Ce qui m'étonne, Alain Irung, c'est l'arrogance de ceux qui sont censés réunir les gens autour d'eux. Vous voyez le comportement...
Vous faites allusion à la CENI.
À la CENI, le comportement des dirigeants de la CENI. Vous êtes un organe qui est réhabilité pour pouvoir accompagner la démocratie, et vous comportez comme un organe dictatorial. Vous repoussez tout le monde, vous repoussez toutes les propositions. Allez-y comprendre. Nous avons un cadre logique, un cadre juridique ou un cadre légal pour certains, qui est notre constitution et qui est l'accord, qui est aussi le loi électorale. Et dans ces lois-là, aucune loi ne parle des machines. Et vous venez avec des machines, on sait d'où. Et avec une machine qui coûte 1 400 dollars, quand vous multipliez par 110 machines, vous avez autour de 150 millions de dollars. On ne sait pas d'où cet argent devait venir. Et vous insistez, les gens vous disent que rentrons dans le cadre logique. Là, au moins, chacun de nous va se retrouver. Cher ami, vous connaissez notre pays, qu'il est rempli, donc 80% de nos populations sont analphabète. Vous leur imposez une machine ordinateur et qui va demander des heures, 2 minutes pour la compréhension.
Merci.
Alors, allez-y comprendre. Et le Conseil de sécurité insiste. Il rappelle que votre pays est trop stratégique. Ne faut pas blaguer, revenir dans les normes avec des termes diplomatiques, effectivement, parce qu'il a insisté sur le cadre légal.
Merci Alain Botoko. Francis Kidiba, rédacteur en chef de la radio communautaire de Mwanda dans la province du Congo central. Plusieurs cadres de la majorité présidentielle ou du FCC ont déclaré que le temps n'était plus au dialogue et que l'on a suffisamment dialogué dans ce pays et qu'il faut aller aux élections, mais sans consensus, parce que l'opposition tient à y aller sans machine à voter et la majorité pense qu'il faut absolument y aller. Qu'est-ce que vous en pensez?
D'abord, pour commencer, je loue quand même l'acte du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un acte à féliciter. D'abord, ça prouve combien les Nations Unies sont attentionnées au processus électoral en RDC, un pays qui quand même qui se veut démocratique, qui aspire au développement intégral de son peuple, parce qu'il faut quand même avouer que depuis les premières élections en 2006, la RDC a enregistré pas mal de petits changements politiques, bien que le social reste encore du pain sur la planche. Mais au moins, on sait que la Constitution nous dit qu'après 5 ans, il doit y avoir de nouvelles élections. Et vous constaterez que le peuple congolais sait, dans la mesure du possible, sanctionner un tel candidat au profit d'un autre par le vote. Donc, d'ici 2 mois, si tout va bien, nous allons encore vivre de nouvelles élections pour la 3e fois, libres et démocratiques. Alors, concernant ce que vous avez dit tout à l'heure, je crois que cette délégation du Conseil de sécurité de l'ONU est arrivée à Kinshasa, c'est pour constater ce que le président de la République a réaffirmé du haut de la tribune de la 73e Assemblée générale de l'ONU, en disant que la RDC tient aux élections en décembre 2018. Alors, il y a un problème, c'est la machine à voter, cet outil. La machine à voter, c'est un objet qui aujourd'hui divise la classe politique. D'abord, quand je vois cette formulation de la délégation du Conseil de sécurité, je me dis qu'il y a quand même anguille sur roche. C'est comme si le Conseil de sécurité de l'ONU ne croit toujours pas, malgré que le chef de l'État continue à crier fort qu'il y aura des élections en RDC, mais ne croit toujours pas. Et voilà, c'est la conséquence de cette délégation, parce que quelque part, ils apprennent qu'il y a une machine qui divise le peuple, bon, parce que derrière le peuple, derrière les politiciens, il y a le peuple quand même. Donc, cette machine au centre aujourd'hui des divisions, je crois que le Congolais que nous sommes, peuple, politiciens, nous devons en tout cas conjuguer ce mot-là, consensus, autour de cette machine. C'est très important parce que si aujourd'hui il n'y a pas consensus autour de cet outil, imaginez la suite. Imaginez la suite dans ces pays.
Francis ?
Oui,
mais comment il y aura un consensus du moment que chacun campe sur sa position? L'opposition ne veut pas entendre autre chose sauf des élections sans machine à voter. Et de l'autre côté, la majorité dit qu'elle ira aux élections coûte que coûte. Comment pourrait-on arriver à une entente? Est-ce que nous n'allons pas tout droit vers une crise?
Vous l'avez dit, Alain Rungo, ça pourrait être le cas. Donc aujourd'hui, les avis sont partagés. Il me sera difficile pour moi maintenant là d'affirmer si c'est la majorité de peuple congolais qui sont d'accord avec la machine à voter ou c'est la minorité qui refuse cet outil. Je ne saurais vraiment le confirmer maintenant parce que je n'ai fait aucun sondage. Mais du moins, avoir la machine, la classe politique actuelle, on sait que la majorité est d'accord qu'on y aille aux élections avec la machine à voter. Et l'opposition ne veut point entendre parler de ça. Selon moi, quand la CENI en tant qu'organe indépendant invite les acteurs politiques à des réunions, par exemple, qu'il y a eu récemment, une réunion qui s'est terminée en queue de poisson, des réunions comme ça, c'est pour dégager quand même des divergences et les convergences en vue d'un consensus, à partir des idées des uns et des autres, amener tout le monde à un vote apaisé en RDC.
Merci.
Et des réunions comme ça, quand la CENI la convoque, elle doit être objective et responsable. Il ne suffit pas seulement de faire les beaux yeux pour enfin revenir à la case de départ. Là, on n'avance pas.
Merci Francis. Je reviens à vous tout à l'heure. Claude Molichaud, finalement, un dialogue pour un consensus, il y a certains analystes qui craignent que ce dialogue ne puisse déboucher à une autre transition, à un gouvernement, et puis repousser les élections carrément.
Alain Reung, on est fatigué. Nous sommes passés de dialogue en dialogue, depuis table ronde, toutes ces conférences nationales, Sun City, dialogue OIA, Senko. En tout cas, non. Et aujourd'hui, tout le monde parle au nom du peuple. Même si on n'a pas le mandat du peuple. Parce qu'il y a des opposants qui disent que non, le peuple ne veut pas la machine à voter. Est-ce que vous avez jugé le peuple? Vous avez le mandat du peuple.
Est-ce que le FCC a jugé le peuple pour savoir que le peuple veut la machine à voter?
Le FCC dit ceci, machine à voter ou pas, élection le 23 décembre. C'est ça que le FCC dit. Qu'il y ait machine, qu'il n'y ait pas machine, élection. Parce qu'on a trop tergiversé.
Mais Claude, du moment que les conditions de transparence ne semblent pas réunies, est-ce qu'il n'est pas, il n'est pas légitime de réclamer?
Non, on a droit de réclamer. Mais il ne faut pas réclamer qu'on transfère maintenant la source du fleuve Congo de Lualaba. Maintenant, ça doit partir de Boudjala, dans la province de l'Équateur. Non. La source du fleuve Congo, c'est dans les Lualaba. Ça ne doit pas être transporté. Non, il faudrait, pour qu'il y ait élection, il faudrait que la source du fleuve Congo quitte le Lualaba jusqu'à Boudjala. Non.
Est-ce que dans ce contexte, on aura des élections apaisées?
Moi, je pense qu'il y a possibilité. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le mécanisme de concertation. Et l'ONU, l'OIF, les experts n'ont fait qu'enfoncer les clous pour dire que voilà, il faut arriver, continuer sur cet élan-là. Mais il y a des gens qui manifestent la volonté de ne pas y aller. Parce qu'ils ne sont pas préparés, ils n'ont pas l'argent pour battre campagne. C'est ça, c'est ce qu'il faut être clair, dire la vérité. La CENI ne repousse personne, comme a dit mon
Alain Botoko a parlé d'une certaine arrogance de la CENI.
Non, il n'y a pas d'arrogance. Quand on vous appelle, c'est pour parler, c'est pour dialoguer. Mais vous arrivez là-bas, vous dites que non, il faut transférer les eaux de Lualaba, la source du fleuve Congo, ça doit quitter le Lualaba pour le Boudjala. Et comment on peut vraiment changer tout d'un coup comme ça la source du fleuve Congo? C'est presque impossible. Il ne faut pas demander vraiment que non, qu'on me dise d'avoir le sexe des anges, non, pour qu'il y ait élection. Il faut parler des choses qui tiennent debout. Parce qu'on ne doit pas parler n'importe quoi. On vous dit, il faut trouver un consensus. Pour trouver un consensus, c'est quoi? Il faut se parler. Moi, j'ai suivi un opposant, Mokia Gabriel, pour ne pas le citer, parce que nous devons dire la vérité tout haut. Mokia a dit que tous les 21 candidats présidents de la République, parce qu'il faut partir de là, ou leurs délégués, expérimentent la machine à voter ensemble, pas individuellement. Qu'ils expérimentent ensemble. Les 21 candidats présidents de la République sont là, on met la machine à voter là-bas. Dites-nous, ils sont venus avec leurs experts, bien sûr. Dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas dans cette machine? C'est une imprimante de vote. En 2006, il n'y a pas eu de machine à voter. Ils ont protesté les résultats. Et même si Tshisekedi Wamulumba, à l'époque, avait dit que non, il a interdit aux membres de l'UPS d'aller se faire enrôler. Il y a eu élection. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu élection. Il y a eu élection en 2006. En 2011, il n'y a pas eu de machine à voter. Ils ont protesté les résultats. Et en 2018, vous voulez qu'on reporte les élections encore? Alors qu'ils ont organisé des marches ici. Les gens sont morts.
Merci
à cause de ces marches pour dire que non, Kabila doit organiser les élections. C'est comme si le chef de l'État, Joseph Kabila Kabila, qui organise les élections. Il y a un pouvoir qui organise les élections. Ce n'est pas le chef de l'État. Et demain, ils vont accuser encore le chef de l'État de ne pas vouloir organiser les élections.
Merci, Claude.
Ce sont des gens qui veulent vraiment des troubles dans ces pays.
Merci. Alain Botoko, pour vous, quels sont les préalables pour qu'on ait des élections apaisées, crédibles, inclusives, transparentes?
La première condition et la condition principale, c'est la transparence. Et pour la transparence, le Conseil de sécurité l'a dit clairement à Nangaï, à ses amis, qu'il faut... Il faut que le fichier qui est corrompu, qui a plus de 16% de personnes qui n'ont pas d'empreinte digitale, il faut
près
que
de 10 millions,
plus de 10 millions
d'électeurs sans empreinte digitale.
Je parle en termes de pourcentage.
Ouais.
10 millions. Donc vous voyez, et selon notre loi, un président peut être élu avec 10 millions de personnes. Allez-y comprendre. Ça, c'est la première chose. Donc, la deuxième chose, c'est cette machine qui peut être connectée dans tout le pays et qui peut envoyer le résultat à la seconde, qu'on peut manipuler. Alors, qui peut faire confiance à cette machine? Mais moi, je reviens aux deux acteurs, hein, de deux grands acteurs, le FCC et l'opposition. Vous savez, il y a toujours un arbitre. Et l'arbitre, dans un match, l'arbitre, c'est la CENI. Et quand la CENI ne fait pas un jet clair, aucune partie qui doute d'elle ne peut lui faire confiance. Et quand Et quand l'EFCC qui dit que l'opposition n'a pas d'argent, n'a pas de moyens, elle ne veut pas aller aux élections, mais l'opposition répond directement qu'elle a tout payé, elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir battre campagne. Et c'est l'FCC qui n'a pas un programme et qui n'est pas prêt à aller aux élections. Alors nous posons la question, est-ce que la machine à voter ne vient pas effectivement pour faire bloquer le processus? Et s'il n'est pas, pour faire bloquer le processus, qu'il y ait consensus, qu'on est là avec cette machine, qu'on vote, même avec le papier que chacun de Congolais choisisse, son président, son député provincial, son député national.
Mais voter avec le papier aujourd'hui, Alain Botoko, est-ce que ça ne va pas repousser
mais
les
ça,
élections?
C'est une façon de parler, parce que dans le calendrier de la CNI, il y a l'impression de papier.
Merci.
Nous sommes dans le timing des impressions de papier.
Merci.
Pour voter. Donc, nous demandons, moi personnellement, je demande à la CNI d'être un peu plus humble. Parce que quand on parle des institutions qui sont illégitimes, son institution aussi est illégitime.
Merci.
Ils n'ont pas de mandat, ils ne peuvent pas imposer de choses.
Merci,
ils doivent
Alain Botoko.
Négocier.
Francis Kidiba, juste un mot brièvement avant que l'on passe à notre deuxième thème de ce soir. Pour vous, quels sont les préalables pour des élections apaisées?
Je crois que mon confrère l'a dit tout à l'heure ici, la transparence, ça c'est vraiment l'élément central, la transparence. Et la CENI doit adopter l'esprit d'écoute. Vous voyez, je peux donner un exemple. La CENI peut se comporter comme un homme qui voudrait avoir une femme en mariage. Donc, celui-ci supporte toutes les caprices de cette femme, puisque l'idéal pour lui, c'est d'avoir cette femme en mariage. Donc, quel que soit le caprice, et l'homme supporte, puis l'objectif, c'est d'avoir cette femme pour lui. Donc, je crois que l'indépendance de la CENI ne peut pas exclure les avis et suggestions d'observateurs. Peut-être que de ces avis, suggestions, propositions peuvent sortir des résolutions amenées au consensus que nous recherchons tous aujourd'hui afin qu'il y ait des élections transparentes, libres, apaisées, démocratiques dans notre pays.
Merci, cher confrère. Nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Vous le savez, l'incendie dramatique de Mbuba qui s'entoure au Congo central a fait plus d'une cinquantaine de morts selon les sources officielles et plus d'une centaine selon la société civile. Guy Roger Nyampala, en ligne depuis la ville de Matadi, nous rappelle les faits.
Les dernières informations en notre possession indiquent qu'il n'y a plus de personnes brûlées soignées à l'hôpital Saint-Luc de Kisantou. Les brûlés qui sont restés dans cette formation médicale sont tous décédés. Ils étaient au nombre de 19. Et il y a eu près de 80 brûlés transférés dans les hôpitaux de Kinshasa. 14 parmi eux sont morts en route, selon des sources officielles. Le bilan définitif aujourd'hui est difficile à établir, selon un membre du gouvernement provincial du Congo central. Il faut donc attendre les conclusions des enquêtes et les chiffres du ministère. Le ministère de la Santé parle de près d'une cinquantaine de morts et plus de 100 brûlés. La société civile locale et les sources indépendantes, par contre, parlent de plus de 100 morts, y compris les disparus. Notez que 19 corps ont été enterrés mardi sur place au cimetière Pambou Tanou, vers Kisantou, bien entendu. Les recherches vont sûrement déterminer comment cela est arrivé, mais d'après des témoignages recueillis sur place à Mbuba, quand le véhicule citerne et le camion sont entrés en collision, les feux ne s'étaient pas encore déclarés aussitôt. C'est plus le carburant qui commençait à couler et certains habitants se sont précipités pour recueillir justement ce fioul. L'information avait également circulé. D'autres avaient déjà fait des allers-retours avec des bidons de carburant selon des témoignages et soudain c'était l'explosion. Avec les victimes que nous déplorons aujourd'hui, le feu avait presque embrasé tout ce village et les témoignages vont effectivement dans tous les sens.
Voilà, Francis Kidiba, vous êtes rédacteur en chef de la radio communautaire de Mwanda dans la province du Congo central. Comment ce drame a-t-il été vécu dans la province du Congo central concernée?
Merci beaucoup. Je crois que cette nouvelle, triste nouvelle, a vraiment écœuré plus d'un dans la cité côtière de Mwanda, puisque c'est la cité côtière fait partie de la province du Congo central. Moi-même qui vous parle, je suis ressortissant de Madima, Donc Madimba, c'est le territoire de mes parents. Donc j'ai été écœuré, je me suis mis à la place des familles endeuillées. Perdre un être dans une famille, c'est pas quelque chose de plaisir, et surtout que certains sont partis comme ça, toute une famille. Il y avait des passagers qui étaient là lorsqu'il y a eu embouteillage, qui cherchaient à faufiler le passage, et puis voilà, l'explosion les a trouvés à cet endroit, malheureusement. Donc ici, il y a eu vraiment sentiment de tristesse. À l'occasion même, il y a eu des cultes d'action de grâce organisés localement en mémoire des victimes.
Est-ce que ce drame, Francis, ne remet pas à la surface le problème même de la sécurisation, du transport de ces produits très inflammables?
Justement, je me rappelle, il y a deux ans, l'ex-gouverneur, le feu gouverneur Jacques Mbadou, était venu ici à Mwanda pour apaiser les tensions au niveau du poste frontalier Yatch, quand il y a eu soulèvement des manutentionnaires et commerçants de carburant. C'était à l'issue de la décision du ministre des hydrocarbures interdisant le transport de ces produits inflammables par des fûts. Donc je crois que à cette époque, le gouvernement était bien parti. Est bien parti, mais par après, puisque bon, il y a eu une certaine faiblesse du côté du pouvoir, finalement, le gouvernement a un tout petit peu lâché, et le transport de ces produits inflammables est revenu comme c'était avant. C'est comme s'il n'y avait Merci. Pas eu de décision à propos. Et voilà, aujourd'hui, maintenant, nous pleurons le mort. Ce sont les conséquences.
Merci. Alain Botoko, vous êtes journaliste, photographe indépendant. Selon certains spécialistes, pour transporter ce genre de matière, il faudrait que le camion citerne soit escorté avec un véhicule avec gyrophare pour alerter à au moins un kilomètre qu'il y a une matière sensible, dangereuse, qui est en train d'arriver, mais il semblerait que ce n'eût pas été le cas pour ce camion.
Oui, mais c'est parce que nous sommes un pays hors normes. Nous fonctionnons de notre manière. Mais vous comprendrez avec moi que le pétrole ou les produits pétroliers sont des produits dangereux, et ça ne peut pas être transporté comme toute autre marchandise à travers le monde. Je vous donne par exemple les statistiques des États-Unis et du Canada. Donc 97% de leurs produits pétroliers circulent dans le pipeline. Donc allez-y comprendre. Et le reste ne circule qu'avec des conditions strictes. Vous ne pouvez pas circuler avec ce qui peut être inflammable, ce qui peut tuer à la seconde, comme vous voulez. Mais là, ce qui me blesse un peu plus, c'est le comportement de nos autorités, nos ministres. À l'occurrence, celui des hydrocarbures. Vous voyez, quand il passe dans les télévisions, dans les radios, là, il est parti tard à voir le dégât. Or, les normes, c'est celui qui édite, c'est son ministère, c'est celui qui contrôle les normes. Et ce qui est à craindre, c'est quoi? C'est que les accidents vont continuer, parce que ce n'est pas la première fois qu'on ait connu un accident comme ça. Il y a eu des accidents ici à Kinshasa dans le déposage de produits pétroliers.
À Sekebanza, à Sangé.
Banza à Sangé, et il y en aura encore d'autres s'il n'y a pas de mesures qui sont prises. Et je voulais alerter un peu l'opinion nationale et internationale sur ce qui va se passer dans le lac Kivu si jamais le gaz n'est pas exploité.
Le gaz méthane.
Or, c'est le ministère des hydrocarbures, effectivement, qui donne l'autorisation. Et il est en complicité avec une société tunisienne, alors qu'il y a une société composée de Congolais qui est mieux notée pour exploiter ce gaz. Parce que ce gaz, liquéfié, une fois sorti de l'eau, va à l'air libre. Alors, c'est tout le monde qui sera asphyxié et il n'y aura plus de vie. Et les êtres vivants et le reste de la biodiversité. Je parle des animaux, des arbres et tout ce qui respire.
Merci. Claude Molichot, Kayembe, journaliste à la Radio-Télévision nationale congolaise, RTNC, et aussi coordonnateur national des communicologues du 3e millénaire. Ce drame repose le problème de la gestion des catastrophes, sécurisation, respect des normes. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Bon, ça m'inspire une idée pour dire que il faudrait que le gouvernement se ressaisisse ou les décideurs se ressaisissent parce que nous ne voudrions plus vraiment vivre ce qu'on a vécu en Mbouba dans le Congo central parce que il faut des solutions et vraiment pour y arriver il faut des moyens et il faut des moyens considérables parce que ce n'est pas seulement cette voie là on a parlé de l'élargissement de la voie ou de la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi avec des feux de signalisation, sécurité et des camions citernes sur cette voie, le trafic de ces gros camions citernes seulement pendant la nuit. On a parlé également des pistes et des solutions, par exemple la réhabilitation de la voie ferrée et les rails Kinshasa-Matadi. Mais aujourd'hui, l'ONATRA, vous savez comment l'ONATRA fonctionne aujourd'hui, l'ONATRA en difficulté, le DG même qui est là, professeur Mukoko Samba, vraiment dépassé, il a montré ses limites avec plus de 15 ou 16, 13 mois ou 14 mois d'arrêt de salaire, pendant qu'il contracte toujours des crédits par-ci par-là, des dettes par-ci par-là dans des banques. Donc, il faudrait vraiment une solution considérable et mettre des moyens.
Une solution globale.
Globale. Vraiment, ça nécessite des moyens. Donc, pour moi, il faudrait que les conseils des ministres se réunissent rien que pour la sécurité, parce que les mêmes problèmes se posent au niveau de la route Kasubalesa, Lumbashi-Kasubalesa, Lumbashi-Kolwezi. Nous, on était récemment à la 3e conférence minière de la République démocratique du Congo-Kolwezi. On a vécu ce genre d'accident. Il y a un camion citerne qui a pris feu sur cette route-là, Lumbashi-Kolwezi. Donc, il faut décemment élargir et construire. C'est la vision même du chef de l'État, la révolution de la modernité. Il faut y arriver. Maintenant, pour y arriver, il faut des hommes capables, placer des hommes à leur place et chaque fois, à l'échéance, évaluer. Et moi, je pense que les choses peuvent aller de l'avant. Et on pourrait ainsi éviter ces genres d'accidents.
Francis Kidiba, il nous reste moins de 4 minutes pour terminer cette émission. Vous avez suivi Claude Molichot proposer des pistes de solutions pour éviter à l'avenir ce genre d'accident. Mais il faudrait aussi dire qu'il y a également le problème des conditions de travail des conducteurs de ces engins.
Exactement. Je crois que Alain Rung et le confrère, comme à Sangé, vous vous rappelez, en 2010, je crois que le gouvernement de la RDC n'a pas été en mesure aussi cette fois d'éviter le pire. Et on les dit toujours, gouverner c'est prévoir. Cette route de Matadi à Kinshasa, depuis sa réhabilitation, je vous dis, nous qui la parcourons plusieurs fois, mais c'est difficile de voir des véhicules, que ce soit des gros engins ou de véhicules, de petits véhicules, circuler avec une vitesse normale. Généralement, c'est toujours des fortes allures. Même les remorques roulent à vive allure, pendant la journée, que ce soit la nuit. Donc, il se pose un problème de réglementation des transports de produits pétroliers et de gestion des catastrophes dans ces pays, comme on l'a vécu, comment est-ce que les victimes ont été secourues en retard, tout ça. Il y a beaucoup de problèmes.
Francis,
même ces gens-là qui conduisent ces gros engins, en principe, leur circulation devrait être régulée. Moi, je propose, par exemple, les remorques de gros engins comme ça qui transportent les produits infamables circulent la nuit, par exemple. Vous avez la nuit, il y a moins de faveurs qui est par exemple l'explosion, parce que la journée quand il fait chaud, bon, tout peut arriver, moindre intercelle, et puis c'est
Francis,
ce qui est arrivé à Mbouba.
Francis,
oui,
est-ce que vous pouvez conclure parce que l'émission va toucher à sa fin?
Justement, donc l'État doit revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, les mesures préventive pour éviter les accidents comme ça, en régulant la circulation de Matadi à Kinshasa.
Merci. Alain Botoko, l'État doit sévir, l'État doit se réveiller, mais c'est chaque fois qu'on entend ce refrain lorsqu'il y a un accident en guise de conclusion. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais c'est pour ça que les élections sont utiles pour pouvoir changer la gouvernance, parce que si les gens répètent la même chose, c'est-à-dire que la gouvernance est mauvaise et il faut la changer, il faut la confier la gouvernance aux autres, parce que peut-être qu'ils viendront avec une autre vision. Nous sommes 100 millions d'habitants et je crois qu'il y a un parmi ces 100 millions qui peut organiser les choses autrement, parce que ça ne va pas au pays. Il n'y a pas que ça.
Merci.
Des accidents sont partout, des maladies qui autrefois étaient éradiquées sont en train de revenir.
Merci.
Donc il faut qu'on change les choses et le temps est arrivé pour changer les choses.
Claude Molichaud, conclusion.
Oui, la conclusion c'est quoi? Nous devons aller aux élections et après les élections, on va placer des gens capables à leur place et évaluer chaque fois, parce qu'il y a trop d'infiltrés dans la majorité présidentielle, la majorité qui a géré 5 ans, les 5 dernières années.
Tout comme dans l'opposition.
Il y a trop d'infiltrés, même dans les FCC aujourd'hui, parce que les FCC viennent de naître. Donc il faudrait vraiment être vigilant et placer la personne à sa place et évaluer chaque fois l'action entreprise par cette personne qui est mise à un poste de responsabilité.
Merci chers confrères d'avoir participé à cette émission. Jacques Bossenga était à la technique, Dona Madimba à la réalisation, Pélé Kipela à la supervision, présentation et coordination Alain Roumouchige. Merci de votre attention, au revoir.